Non, ça va.
Ça va aller ?
C'est bon. Merci beaucoup les organisateurs. Merci beaucoup Docteur Amouzou, parce que non seulement ça va rentrer dans l'histoire, mais je pense que nous sommes capables de montrer que nous avons des solutions différentes, pour ne pas dire alternatives, sur le Togo. Quand mes amis m'ont demandé de parler de la santé, de l'économie et du développement social et culturel, c'est un thème tellement large que j'ai démocratiquement et tout seul choisi un certain nombre de points que je voulais développer avec vous rapidement. 15 minutes, c'est très juste. Et libérer les énergies, quand on cherche des solutions, ce n'est pas toujours très facile. Donc, je vais vous demander de m'accompagner avec l'idée que l'essentiel va se discuter dans les commissions tout à l'heure. Mais quand même qu'on ne peut pas proposer quelque chose de concret si on n'est pas dans un cadre plus grand et dans lequel nous réfléchissons. Le sommaire que je vous propose aujourd'hui, c'est en fait, pourquoi Obama n'est pas allé au Togo? Et je suis sûr que vous allez essayer de trouver une réponse à cela, ce n'est pas évident. Et vous allez voir qu'en essayant de répondre à cela, nous touchons du droit tout ce qui a été dit avant par Brigitte, tout ce qui a été dit avant par les autres collègues, et au fond, nous revenons au problème fondamental du Togo, qu'il avait solutionné dans les années 60, l'autosuffisance alimentaire, et donc aujourd'hui ce qu'on appelle à la FAO la sécurité alimentaire. Mais vous ne pouvez pas manger si vous n'êtes pas en bonne santé, et du coup vous n'aurez certainement pas une longue vie. Donc on va se poser la question, combien de temps le Togolais vit? Et bien sûr, comment ce développement économique et social se fait, et que si ça a des impacts sur le socio-culturel? Et on va bien sûr proposer quelques solutions. Pour essayer de mettre tout ça en perspective, je vous ai proposé de regarder la population togolaise des années 50 à 2050. Vous voyez que nous faisons beaucoup d'enfants. Il y a une croissance de la population en vert. Vous lisez sur l'échelle de gauche, ici. Et donc nous serons en 2050, autour de 13-14 millions, nous aurons doublé. On fait beaucoup d'enfants. Paradoxalement, la croissance annuelle de cette même population, elle est en dents de scie. Donc vous apercevez que dans ces années 65-70, on a fait beaucoup d'enfants et que très rapidement, en fait, tout cela diminue. Et tout cela diminue. Ce qui veut dire qu'on prend conscience, à travers l'éducation justement, que faire trop d'enfants et ne pas pouvoir les nourrir pose problème. Et naturellement, sans que ce soit les Occidentaux qui nous disent d'arrêter de faire des enfants, nous allons changer nos comportements. Alors, ceci n'est valable que si nous arrivons à trouver une économie qui permet de nous nourrir. Et l'économie togolaise, elle est là, 2% ici. Donc vous voyez qu'on est largement en dessous du nombre d'enfants que nous créons, et ça va devenir pire ici. Alors bien sûr, si nous avons à créer une croissance économique, alors on s'en sort. Et si on ne le fait pas, alors il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bien-être, et bien sûr à cela, il va falloir rajouter des distributions de richesses. Alors pourquoi Obama n'a pas choisi le Togo? Et je vous garantis qu'il faut se donner ça comme objectif. Et c'est une des premières propositions que je ferai ici pour la diaspora. Fixez-vous comme objectif de faire venir Obama au Togo. Qu'il vienne pas, la rigueur n'est pas important. C'est l'objectif qui va permettre de changer un certain nombre de choses dans le pays. Et la première chose à changer, c'est que le peuple doit pouvoir se déterminer lui-même, notamment par rapport à son destin. Très rapidement, pourquoi? Il faut avoir un parlement des représentants du peuple. Pourquoi? Pour les contre-pouvoirs, les abus de pouvoir. Il faut que ces voix, qu'elles soient dans les oppositions ou pas d'ailleurs, s'expriment librement. Il faut une égalité vis-à-vis, vous connaissez, justice, police, armée, etc. Et puis surtout, nous devons pouvoir participer à la vie de la nation, ce qui n'est pas le cas de la diaspora qu'on est aujourd'hui, on est exclu, ou quand on rentre, on est coopté. Ce qui, en termes de résultats, n'est pas toujours meilleur. Et en fait, pour que ceci se modifie, il faudrait une institutionnalisation des principes de pouvoir rendre des comptes. C'est pour ça que je reviens sur ce que disait Brigitte sur la charte éthique qui est fondamentale. Il faut pouvoir rendre des comptes et donc institutionnaliser. Donc, une diaspora non organisée qui n'est pas institutionnalisée, on ne peut pas fonctionner. Donc, il faut absolument, comme on fait les Béninois ou d'autres, qu'on trouve un moyen que l'État togolais mette de l'argent à disposition pour financer l'organisation, en réseau ou pas, de la diaspora. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Si ceci est en place, vous allez voir facilement qu'on peut protéger le citoyen, on peut mettre en place un certain nombre de transparence, dénoncer le népotisme, etc., etc., etc. Mais aussi, on peut amener quelqu'un qui refuse de démissionner à démissionner. Parce que c'est aussi une solution de paix que de démissionner. Avant les élections, ce sera encore mieux. Vous voyez bien de qui je parle. Alors, deuxième raison pourquoi Obama n'est pas venu, c'est que nous, au Togo, en tout cas nos dirigeants, ne tiennent jamais compte de la leçon de l'histoire. C'est qu'il faut absolument qu'un gouvernement respecte la volonté du peuple, sinon il a du mal à prospérer. Et très souvent, il n'est pas stable. Deuxième problème très important, il faut que le gouvernement arrête la répression, parce qu'au fond, ça ramène toujours à la pauvreté. Troisième problème important, c'est que ce gouvernement, de manière générale, n'arrive pas à créer de la richesse, et on va voir les preuves économiques qui montrent cela. En fait, c'est plus grave. Ne pas créer de la richesse, c'est un problème. Le deuxième, c'est que le dirigeant n'exploite l'économie que pour s'enrichir, soit dans les intérêts des pays occidentaux, extérieurs au Togo, ou bien sûr soi-même. C'est pas moi qui ai dit ça, hein. Vous serez étonnés, c'est le président de la République des États-Unis. Les États-Unis, c'est Barack Obama. Et il l'a fait récemment au discours de Ghana. On aurait pensé que ça venait d'un opposant duo. Non, pas du tout, c'est Obama qui dit ça. Deuxième raison pourquoi Obama ne peut pas venir au Togo, l'état de droit et le leadership éthique. On disait tout à l'heure qu'il faut une autre forme de gestion et de gouvernance. C'est que, en fait, les Occidentaux, et je le dis aux Occidentaux blancs, Allemands, Autriche et d'autres, écoutez, on ne veut pas vivre dans vos sociétés. On est de la diaspora, oui, mais vous croyez tout le temps que nous venons parce que c'est mieux chez vous. Non, on veut vivre chez nous. Seulement, les règles de droit ne fonctionnent pas. Et ces règles du plus fort, c'est vous, Occidentaux, blancs, qui les soutenez, qui les légalisez, qui les structurez. Donc, une des fonctions de la diaspora, c'est de parler à ces gens-là, de se modifier, notamment les conservateurs occidentaux. Et quand vous le faites avec insistance, ils finissent par oublier que vous êtes noir, ils finissent par oublier que vous dites des âneries, ils finissent par oublier que c'est à cause d'eux que l'immigration continue et augmente chez eux. Deuxième élément, c'est que la notion de tyrannie semble banalisée. Il faut le remettre à l'ordre du jour. Parce que ce sont des nouvelles formes de tyrannie qui sont sociales et qui ne se voient pas directement. Et quand les gens meurent, comme les informations ne le disent pas, écoutez, ça se diffuse et puis les gens finissent par oublier. Et alors du coup, il faut changer le style du gouvernement. Ou en tout cas, ceux qui existent aujourd'hui doivent changer. C'est encore pas moi qui ai dit ça, c'est Obama dans son dernier discours. Vous serez étonné que tous ces éléments ne sortaient pas dans le discours. Et pourtant, c'est un discours officiel que vous pouvez accéder sur le site des Ghanéens. Troisième chose pour la raison que Obama, je pense, ne pouvait même pas venir au Togo, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver la confiance entre les fils et les filles du Togo. Alors bien sûr, il nous faut une identité plurielle. Nous sommes des parties d'une ethnie, une religion, une nationalité, une école de pensée, etc. Ceci ne nous empêche pas d'être d'abord togolais. Et c'est là que le problème commence. Il faut arrêter de se définir, nous, diaspora, vous et moi, il faut arrêter de se définir par opposition. Il faut se définir par l'alternative. C'est fondamental. Si on travaille par opposition, on se tapera dessus comme ce matin, on n'arrivera pas à structurer comme demande le Présidium, etc. Deuxième chose, les sources de division, il faut les identifier rapidement et les mettre de côté. À partir du moment où vous les mettez de côté, vous trouvez ce qui réunit, et donc cette diversité plurielle arrive à devenir une source de puissance. Et à ce moment-là, on peut avancer. Troisième chose, il faut qu'on ait des aspirations communes. Donc le plan d'Arnouzou de dire qu'il faut 50 propositions, et non pas 100, précises, peut-être même budgétisées, c'est une chose qui va nous amener à nous forcer, dans les commissions, à avoir une aspiration commune, si possible, des projets interdépendants ou carrément complémentaires. Alors donc, c'est un nouveau partenariat entre la diaspora, la population, l'État d'Otolo. Ça suppose donc de nous une responsabilité, des autres qui se croient qu'on est dans l'opposition alors qu'on ne l'est pas. Une responsabilité mutuelle. Et troisième chose intéressante, il faut ce respect mutuel. Alors j'entends ici, là, on est contre ceci, on est contre les APT, on est contre l'UFC. C'est des histoires. Quand on se connaît physiquement, mariage et autres, le respect mutuel apparaît très vite. Le non-respect de ce système vient du fait qu'on veut prendre un pouvoir, le conserver et peut-être même le garder longtemps. Et du coup, il va falloir trouver un moyen d'éviter de se faire priver de sa liberté et son moyen d'autodétermination. Dans tous les secteurs d'ailleurs, il n'y a qu'une solution. Il faut revenir au vote. Vous avez bien vu, on a râlé ce matin parce que ce président, on le croyait qu'ils allaient devenir et qu'ils allaient se mettre en place et qu'ils n'allaient plus jamais quitter leur siège. Et on a bien râlé pour qu'ils nous disent clairement que c'est jusqu'à demain et qu'après on verra. Vous êtes d'accord? Donc il faut des stratégies. Alors j'entends beaucoup de bruit là, mais faites attention. Si vous faites des stratégies unitaires, ciblées sur des individus, on coupe la tête à l'individu, il n'y a plus personne. Regardez le nombre de morts que nous avons dans les gens qui essaient de changer quelque chose au Togo. Donc les solutions doivent être modifiées. Ils doivent être des solutions en réseau. D'abord, regardez les pays. Je ne vois pas pourquoi celui de Londres ou celui des États-Unis ou du Texas ne va pas m'apporter une solution qui va dans l'ensemble faire avancer notre diaspora. Qui a un présidium, tant mieux. Mais disons chaque endroit où nous sommes, nous devons pouvoir nous organiser. Et donc mettez ça en valeur, il nous faut un réseau. Et l'avenir du Togo dépend de cela. Ça ne peut plus être déterminé par un nombre restreint de Togolais, qu'ils soient intelligents ou pas d'ailleurs. Et il faut que ce soit dessiné par l'ensemble des Togolais qui s'organisent bien sûr là où ils sont. Et donc on ne peut le faire aussi que si on s'appuie, et c'est très important, sur un réseau national, africain, donc au sein des Africains, mondial, des démocrates, des républicains et des humanistes. Il faut la combinaison des trois. Parce que si vous avez l'un ou l'autre qui ne va pas, vous allez avoir des hypocrites dans le système. Il faut la combinaison des trois, et c'est à nous, puisqu'on les connaît, de les identifier. Oubliez les partis politiques. Identifiez en termes de personnalité, en termes d'entreprise qui investit ou pas dans tel ou tel pays. Et vous aurez vite vu l'objectif recherché. Alors l'autosuffisance alimentaire et sécurité alimentaire, c'est un point important. Nous allons passer un peu dans les statistiques et c'est très important. Regardez bien ce qui se passe au Togo et comptez le nombre de mains. Peut-être que vous n'arrivez pas bien à les compter. C'est qu'avant, quand on avait un gros akoumé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plat principal togolais, on avait beaucoup de sauce autour. Vous verrez qu'il n'y a plus de sauce. On avait moins de mains autour. Et vous allez surtout voir qu'il y a des voix qui a deux mains de la même personne. Oui, c'est important. De la même personne. Vous comprenez qu'il y a un problème. Ah oui. Donc s'il ne peut pas manger, vous comprenez que les femmes ne sont pas d'accord. Et du coup, elles sont des bâtons, elles tapent surtout quand les policiers les ont tapés dessus. Et vous voyez, les manifestations se deviennent spontanées. On ne contrôle plus tellement ça. Vous voyez, donc ce n'est pas un problème d'opposition en tant que tel. La sécurité alimentaire doit être résolue. Si elle n'est pas résolue, ça devient de l'insécurité. Et du coup, les révoltes sont multiformes et elles prennent cette forme. Mais revenons à la base. J'espère qu'il y a des agonomes dans la salle. Voici ce que faisait le Togo entre 90 et 2003-2005 en termes de surface disponible dans le pays. Regardez bien le Togo, c'est ici 58. Le Bénin, d'ailleurs, puisqu'il y a des Béninois dans la salle, voilà, les Burkina, 31. Voilà ce que nous avons fait pratiquement 10 ans après, un peu plus 15 ans après. Le Togo a augmenté. Donc, nous sommes des travailleurs. Personne ne peut douter de ça. Le Béninois est un travailleur. Mais paradoxalement, le Togo travaille même plus que le Béninois. Et pourtant, ils ont un espace surface qui est plus grand. Non, il ne faut pas applaudir parce que vous allez voir que le Togolais, il a d'autres problèmes et que le Béninois fait mieux. Ah oui. C'est qu'il y a une amélioration continue par les agriculteurs togolais eux-mêmes. Et vous allez voir, ils travaillent comme des fous, ils transpirent, mais il n'y a pas de productivité. C'est là que tout le problème commence. Et il faut nous comparer avec ce qui est comparable. On ne va pas se comparer avec l'Allemagne ou la France, on se compare avec l'Afrique subsaharienne, la moyenne. Regardez bien la moyenne, le Togo est donc bien au-dessus, mais le Bénin ne l'est pas. Et donc on comprend maintenant tous les problèmes de corruption qu'il y a au Bénin, qui touchent justement l'espace agricole, et qu'il va falloir modifier chez les Béninois. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Mais ce n'est pas tout d'avoir une terre, il va falloir qu'elle soit irriguée. Si cette terre n'est pas irriguée, comment vous en sortez? Regardez le Togo, on est les pires de toute la zone là-bas. 0,3, 0,3, on n'a pas bougé sur pratiquement 15 ans. Alors, est-ce que c'est parce qu'on travaille pas? Pas du tout. C'est qu'on a augmenté en fait notre pénibilité du travail, puisque c'est pas irrigué, donc c'est plus dur. Et surtout, avec cette absence d'irrigation, on a un deuxième problème, on est incapable de rejoindre la moyenne subsaharienne. Et pourtant, il y a 53, 54 pays maintenant en Afrique. Donc il va falloir non seulement avoir des surfaces pour qu'on augmente, donc une des propositions de la diaspora ici sera quoi? C'est que le gouvernement ou l'État, ou même les bailleurs de fonds, mettent des surfaces à disposition, mettent des possibilités d'irrigation et les distribuent avec un plan de plantation, si possible, de plantation vivrière. Et vous allez voir que les choses pourraient aller plus vite. Mais voilà le vrai problème. C'est que nous ne faisons pas la mécanisation agricole. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Les tracteurs. Pour 100 km² de terre arable. Togo, zéro. Même les Béninois font mieux que nous. Mais oui, c'est que le problème ici, on n'y a jamais fait attention, il n'y a aucune incitation fiscale de la part du gouvernement. Pour être précis, en fait, quand vous importez un tracteur d'occasion au Togo, vous êtes taxé. Et donc, vous faites quoi? Ben, vous n'importez pas. Et donc, je ne vois pas en quoi vous allez pouvoir faire. Et regardez la moyenne africaine. Donc, il ne faut pas croire que les Africains, les autres nous attendent. Ils sont ici. Regardez ce qu'on fait dans la zone. Même le Ghana fait un effort, ils sont tombés. Alors, ils font du bruit que ça marche très bien, mais ça marche pas si bien que ça parce qu'ils se sont endormis en attendant le pétrole de 2011. Ah oui, c'est ça le pétrole, c'est qu'on devient fainéant. Alors voilà comment nous sommes. Voici l'état dans lequel nous sommes. Voici l'état dans lequel nous sommes rentrés en 2010. Et voilà si vous sont les Occidentaux. Et regardez, tout est organisé, structuré. Vous avez vu, les cultures sont différentes et tout est beau ici. Ça veut dire que c'est irrigué. Ici, écoutez, je sens commenter. Alors, vous voyez. Une des premières propositions ici, paradoxalement, c'est pas de faire le job, c'est seulement de demander la désfiscalisation des équipements d'occasion et de promouvoir la productivité agricole pour une production, ce que j'appelle en économie de proximité, donc proche de nous, pour que nous puissions d'abord manger. Alors bien sûr, il faut être en bonne santé, je passe au troisième point. Et pour être santé, il faut bien sûr savoir si nous pourrons avoir une longue vie. Mais je suis sûr que vous avez pensé qu'il y a une arme de destruction massive au Togo qui nous empêche de vivre longtemps, qui nous tabasse, et vous avez pensé à des militaires. Je serais presque d'accord avec vous, parce que je les ai vus en action. Mais vous vous trompez, parce que ce ne sont pas eux. La vraie arme de destruction massive, la voici, c'est le moustique. Et les médecins en savent quelque chose. C'est le palu qui tue chez nous. D'abord, de loin, avant, et ils tuent d'ailleurs les militaires eux-mêmes. Donc vous voyez bien qu'on a un autre débat à faire, on a un autre programme à faire, et il va falloir retrouver qu'est-ce qu'on peut faire contre les maladies endémiques, notamment ici, le paludisme. Alors, rapidement, l'espérance de vie au Togo, 50 ans, dans les années 90, et 51, 15 ans après, on n'a pas trop évolué. Regardez la moyenne mondiale, 65-69. Regardez le Bénin, 53-57. Donc vous voyez bien que la démocratie béninoise, elle n'a pas l'air comme ça. Mais quelque part, 3 ans, 7 ans de plus de vie, c'est pas rien. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure que les Béninois font un peu mieux que nous. Alors, espérance de vie homme-femme, parce que là aussi, hein, nous maltraitons tellement nos femmes qu'on oublie que finalement, mais même dans les maltraitants, la femme vit un peu plus longtemps, 2 ans, mais regardez la moyenne mondiale. Ça pose quand même problème. Les Béninois sont de loin devant nous. 6 ou 7 ans, c'est énorme. Ce sont des moyennes. Donc vous pouvez voir qu'un nombre important de la population vit plus longtemps. Et ça veut dire que derrière, il y a un système sanitaire qui peut fonctionner. Ce système sanitaire, c'est quoi en fait? Alors, au lieu d'aller dans le détail, j'ai choisi plutôt les défenses de santé pour le pays, le produit intérieur brut d'un pays en 2006, parce que c'est les dernières données. Regardez le Bénin 4,7. Le Togo est à 6, paradoxalement, et contrairement à ce que nous ne savons pas, le Togo met beaucoup d'argent par rapport aux autres dans ce domaine de la santé. 5,7% du PIB, il est même au-dessus de la moyenne subsaharienne. Mais le problème, c'est qu'on met des bâtiments et on ne met pas les équipements. Donc vous savez, il fait chaud, il y a aussi les moustiques. Donc s'il n'y a pas les équipements, il n'y a pas les médecins, vous ne pouvez pas fonctionner. Quand on voit par habitant comment ça se passe, c'est très intéressant. 21 $ à peu près pour un Togolais. Les Béninois, 26 $ par habitant. C'est ce qu'on dépense, hein, donc 12 000 CFA à peu près, par rapport à une moyenne qui est de 30 000. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous voulez vous en sortir en termes de santé, et donc vivre plus longtemps, il vous faut sortir à peu près 30 000 par an. Le Togolais moyen n'arrive pas à le sortir, il est à 12 000 et la plupart ne sont même pas à 2 000. Donc vous voyez qu'on a un vrai problème de santé. Donc les inégalités sanitaires finalement ne viennent pas que du problème de la santé que j'ai dit tout à l'heure, mais au pouvoir d'achat. Donc, les entrepreneurs togolais, les chefs d'entreprise, les sociétés, on a un vrai problème de conception. Il faut payer les salaires. Et des salaires décents pour que quelqu'un puisse vivre. Maintenant, on peut discuter le salaire minimum, comment ça se passe, etc. Et vous savez que ça n'a pas été touché depuis jusqu'à des lustres au Togo, hein, le salaire minimum. Alors, l'accès au système sanitaire performant. Le Togo est à 13,90, le Bénin à 12,90. Regardez le Bénin, regardez le Togo. On est les seuls au Togo en fait, a chuté alors que tout le monde augmente dans la zone. Regardez bien, tout le monde augmente, on est les seuls. Donc on voit bien qu'un système qui est policé, qui fonctionne finalement sur le non-respect des urnes, continue à dégrader le système sanitaire performant. Et je ne vous rappelle pas d'aller visiter les hôpitaux de Lomé, vous pourrez comprendre. Mais nous avons un petit problème nous-mêmes en tant que diaspora. Regardez les médecins, regardez les infirmières par habitant. Pour le Togo, 0 à 0,4. Le Bénin, 0 à 0,8. Donc il y a une progression qui se fait beaucoup plus rapidement au niveau des... Au niveau des médecins et des infirmières, personnel soignant en général, mais surtout, nous, on est tous à l'extérieur. Ici, j'ai mis médecin togolais, mais si je remplaçais par béninois, c'était pareil. Hein? On est tous à l'extérieur. Donc, il y a bien un problème qui fait qu'on n'arrive pas à se fixer. On l'a dit tout à l'heure, équipements qui ne sont pas là, un environnement qui ne permet pas, et des dépenses pas suffisantes pour payer des salaires. Vous mélangez les trois, vous ne verrez pas les médecins partir. Quand vous rajoutez les Américains qui vous donnent la carte verte, qui soi-disant est une loterie, mais toutes les loteries tombent sur les meilleurs spécialistes médecins et intelligents du pays, vous comprenez bien que cette loterie, elle est un tout petit peu biaisée. Alors l'Allemagne, mais on est en Allemagne justement, c'est qu'on a un vrai problème ici de migration, on nous dit de partir, on nous dit de nous mettre dehors, très bien, j'ai proposé en Autriche la même chose, j'ai dit mais écoutez, votre migration là, vous ne pouvez pas y changer, depuis des siècles, 6000 ans avant Jésus-Christ, les gens circulaient, vous ne pouvez pas arrêter ça, mais si vous voulez le faire, il va falloir qu'on négocie, il va falloir que ce soit circulaire, mais il faut donner le moyen pour que le médecin retourne, que l'infirmière retourne, mais vous, occidentaux, vous ne voulez pas que l'infirmière ou le médecin retourne parce que vous en manquez chez vous. Et du coup, vous mettez des loteries, qui fait que, du coup, on a un médecin pour pratiquement, je crois, c'était autour de 28 000 habitants. Quand le médecin est là, je ne parle même pas des zones rurales. Donc, il y a bien un problème, comme quoi, à terme, si on n'est pas soigné, mais le chiffre que je vous ai montré, là, on va tous mourir. Et ça donne ce résultat. Vous avez des dispensaires, c'est au Togo. Vous avez des malades qui n'arrivent pas à être soignés. Vous avez des malades qui ne sont plus à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de lit. On les ramène à la maison, bien sûr, ils meurent à la maison. Vous avez le problème de l'environnement qui va avec. Les puits sont de plus en plus pollués parce que les nappes phréatiques montent. Le moustiquaire, il est là, mais vous avez vu le trou. Il n'est pas toujours suffisant. Et quand ça vient de l'étranger, c'est souvent sous l'aide internationale et on nous dit que c'est imprégné et le moustiquaire n'est pas fait avec du coton local. Donc tout ça mélangé, mais on n'a que des handicaps. Que j'ai résumé rapidement ici, c'est qu'on a un vrai problème de sécurité sanitaire et ce n'est plus. Et en fait, cette santé se fait à deux vitesses, pour ne pas dire à plusieurs vitesses. D'abord, revenu faible, c'est la première barrière. Bien sûr, la différence du système sanitaire, il va falloir donc construire des dispensaires, des hôpitaux. Et il y a une barrière de ce que j'appelle un système non intégré. On ne les fait pas en l'air, parce que mes amis qui font la clinique dans leur coin, etc., ils sont privés. Ils vont avoir tendance à aller vers une clinique qui va arranger ce qu'ils font. Donc vous allez voir qu'au Togo, les femmes n'ont pas d'enfants. La première chose qu'on fait, surtout les plus riches, c'est d'aller faire des prières. Quand ça ne marche pas, on rentre chez le type et on dit, écoute, fais-nous des in vitro. Et ça coûte de l'argent et ça marche relativement bien. Et vous serez étonné que ce ne sont pas les problèmes locaux que nous connaissons en santé qui sont traités. Et bien sûr, le comportement aussi des médecins locaux. Parce que beaucoup se sont plaints que finalement on n'est pas très poli. Et donc on n'a pas le respect mutuel dont je parlais tout à l'heure. Mais on a un autre problème de la santé publique de manière générale, j'essaie de montrer ici. Quand nous mangeons notre foufou local, mais attention, l'eau qui est ici pour fabriquer la sauce. Le foufou lui-même, tout le transfert qu'il a fait, ça dépend de l'eau. Si la qualité de l'eau ne suit pas, comment voulez-vous en sortir? Regardez, cette eau se trouve de l'autre côté, voilà ce qui se passe. Et la dame n'est pas informée sur le système d'information. Donc il y a tout un problème de santé publique que j'ai voulu résumer en quelques photos. Ça m'évite de parler lentement. Alors bien sûr, c'est dans ce cadre que le développement économique et social peut être discuté. Alors quelques graphes encore rapidement. Le Togo et l'Afrique subsaharienne, la croissance en fait de notre richesse, hein, depuis 1997 à 2010. Le Togo est en rose, regardez, c'est en dents de scie. Mais de manière générale, voilà la crise financière en 2009. Le Togo, on n'a même pas été touché. On est en fait en permanence dans la crise. Ben oui, parce que c'est ça que ça veut dire. Ben oui, et là, regardez. Regardez là, ici, c'est les pronostics du FMI. Même le FMI, qui est pourtant très conservateur, disent que l'Afrique subsaharienne va pouvoir s'en sortir très rapidement, mais le Togo n'arrive pas vraiment à bouger. Et rappelez-vous surtout qu'on était à 2,1 ici, mais les années avant, on n'a pas beaucoup bougé.
Tu n'amènes pas trop de...
Ah d'accord, pas de problème. Voilà, donc je vous rappelle ces quelques chiffres. Bon, on a eu quelques pics où les choses n'allaient pas trop mal, mais en fait, une économie sans croissance soutenue, c'est le résultat d'une mauvaise gouvernance. Et ça revient à tout ce qu'on a dit depuis ce matin dans cette salle. Deuxième élément qui m'intéresse ici, par habitant, c'est bien beau le côté général, mais regardez par habitant la croissance du produit intérieur brut. Voilà, c'est en zigzag encore une fois, regardez, crise permanente. Et cette fois, c'est par habitant, mais il y a un problème de beaucoup plus grave ici. Regardez bien ceci, voilà, non, je crois qu'il ne s'est pas mis en place. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est ce zéro. On est en fait en permanence en dessous de zéro. Et ça pose un vrai problème. Et donc, il va falloir trouver la corrélation, comment produire plus de richesses pour pouvoir nourrir cette population. L'inflation veut simplement dire que le prix se met à augmenter, et ceux qui sont dans le système commercial d'achat-vente, ils ne sont pas touchés, parce que si quelqu'un augmente le prix à un endroit, je le répercute sur quelqu'un d'autre, je ne le sens pas. Mais moi qui suis au fond du système, un salarié, ou qui subit directement, bah écoutez, je ne peux pas, mon salaire, lui, ne bouge pas. Donc voilà encore comment ça se passe. Il y a eu des pics, et vous voyez que les pics, chaque fois en inflation, correspondent en fait à une crise. Crise énergétique, crise alimentaire, et ça monte, hein, 8,4, on touche même la moyenne subsaharienne. Bon, bien sûr, on redescend. Le problème de la redescente, qui peut être intelligente pour l'ensemble du Togo, est mal réparti. Parce que pas d'inflation pour quelqu'un qui gagne 20 000 ou même pas 15 000 CFA par mois, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a 500 000 ou 600 000 par mois. Ils le sont vraiment différemment. Donc il y a une injustice même dans le système de l'inflation, et qui n'est pas du tout corrigée par le système politique actuellement. En tout cas, est-ce qu'ils en sont même conscients, c'est un autre problème. Donc le Togo, à cause de ça, n'arrive pas à être ce qu'on appelle résilient, donc résistant en fait, aux crises qui sont énergétiques et alimentaires, mais même d'autres qui viendront par la suite. Donc il faut, pour qu'un pays tienne, qu'on puisse avoir des réserves suffisantes, non pas des réserves pour rembourser le FMI, hein, mais des réserves qui nous permettent de soutenir ces crises-là. Alors quelque chose de très intéressant ici, que je demande de bien comprendre. Pour analyser un pays finalement, c'est quoi? C'est comme le portefeuille que vous et moi avons dans la poche. C'est le seul qu'il y a dans le portefeuille que je peux utiliser. Donc, c'est le seul budget du Togo, il est ici, entre 1997 et 2010. Regardez, il est négatif, il est monté jusqu'à 4,9, il est tombé à moins 3,1 en pourcentage du PIB. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de zéro, on n'est pas bon. Le Togo est en rose. Vous avez vu que le zéro est ici. On a réussi dans les années 2000, 2002, 2003 à peu près à monter un tout petit peu, et ensuite, on a navigué en dessous. Donc, crise permanente, je vous le reconfirme encore une fois. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le graphique jaune. Pourquoi? J'ai entendu tout le temps, le don, on reçoit des dons, on reçoit de l'aide, c'est des histoires. Regardez bien ce qui se passe ici. Voici le Togo avec le don, le solde budgétaire. Voici le Togo en jaune, sans les dons. Alors bien sûr, quand il y a eu crise financière, il faut pas que je m'éloigne, voilà. Quand il y a eu crise financière, on s'aperçoit que ben, sans don, on n'arrive pas à remonter la pente. Mais qu'est-ce que fait un gouvernement si on ne peut pas au moins s'en sortir un minimum sans les dons? Mais on a vu qu'avant, bien que ça jouait en serpent, le don ne résout ce petit problème. Est-ce que le don nous a permis de sortir au-dessus du zéro? Non. Donc quand certains disent qu'on n'a pas besoin de don, je pense qu'il faudrait revoir la question. Mais que le don ne nous permette pas de nous en sortir, alors ça c'est quasiment sûr, on peut le prouver. Et c'est très important de faire la nuance, hein. C'est pas parce que le don ne permet pas de s'en sortir qu'on n'en a pas besoin. C'est très important comme nuance. Et donc on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce don qui en fait devient de la dépendance. Donc si on est structurellement déficitaire, on augmente tout simplement notre dépendance économique. Alors je vois qu'il y a des gens qui prennent des notes, j'ai quelques copies, hein, pour ceux qui veulent, et puis on pourra le mettre sur le site après pour recopier ça. Alors la balance commerciale, il paraît qu'on exporte pas mal au Togo, et qu'on a du phosphate, etc. Mais regardez, est-ce que c'est mieux ici? On est encore une fois structurellement déficitaire, voilà le zéro, voici le Togo. Alors le solde importation plus exportation, Regardez, négatif. Moins 13, moins 14. Et regardez, la crise financière était là. Nous, on était plat. Hein. Donc, on est en permanence. Quelqu'un a dit tout à l'heure, hein, vous ne pouvez pas aller plus bas que le sol, hein, de toute façon, quand vous êtes par terre. Alors, la diaspora. La diaspora fait beaucoup d'efforts. J'ai pu trouver le Bénin, j'ai pu trouver le Togo, oui, voilà. Regardez le Togo, 15. Regardez le Bénin, 12, 95. Et en 2007, j'ai le nouveau chiffre, 229. Alors, vous allez dire que le Bénin fait moins bien que nous. Détrompez-vous. C'est justement là le problème. Plus nous envoyons de l'argent dans nos pays, plus en fait la pauvreté augmente et nous devons nous solutionner ce problème-là. Et cet argent part dans la consommation et non pas dans l'investissement. Donc les Béninois font beaucoup mieux que nous, parce que ça veut dire fondamentalement que les types y rentrent, ils investissent sur place, et donc ils n'apparaissent plus dans les statistiques ici. Vous voyez la différence? Donc ça devient très intéressant. Regardez le Ghana, c'est la même chose, mais ici c'est un peu trompeur parce qu'il y a les Noirs américains qui trichent là, ils vont les aider plus que nous. Alors, les investisseurs, on nous a dit qu'ils viennent nous aider. C'est des histoires. Regardez bien les investisseurs ici. Togo et Bénin. 26, 69, 13, 48, Burkina, Ghana. Pourquoi ils vont ici? Parce qu'ils choisissent ce qu'ils appellent, eux, la stabilité. C'est-à-dire la transparence dans les textes et la prévisibilité de pouvoir sortir l'argent. Mais quand les textes sont un peu plus contraignants, comme au Bénin ou au Togo, les types, ils ne veulent pas venir facilement. Donc, ne vous croyez pas qu'ils ne nous aiment pas. C'est qu'en fait, il y a des textes qui permettent de bloquer les types. Regardez ce qui se passe avec Bolloré et Pogoza au Togo aujourd'hui. Finalement, même si ce sont les gens d'extérieur qui mangent notre richesse, indirectement, c'est parce que ces textes sont contraignants et, quelle que soit la forme que ça a pris, on essaie de leur faire payer une partie de nos richesses et de les laisser au niveau local. Même le président de l'Espagne est intervenu, il n'a pas eu gain de cause sur cette histoire. Alors, il faut relancer l'économie togolaise. Et là, la solution que je propose, en tout cas, elle est proposée, elle est valable pour tout le monde, hein, c'est les capacités productives. C'est-à-dire, il faut injecter du contenu technologique. C'est la théorie, ça. Concrètement, c'est quoi? Si vous allez au pays, en vacances ou pas en vacances, quand vous prenez quoi que ce soit que vous voulez faire pour aider de l'autre côté, arrêtez d'aider seulement pour la santé, etc. Il faut le faire. Mais regardez avec votre cerveau si vous ne pouvez pas tout simplement imaginer qu'est-ce que je peux injecter comme technologie. Le gars, il a une moue. Regardez quel est le prochain équipement amélioré que vous pouvez lui apporter. Que vous l'achetez, que vous le formez ou pas, etc. Pensez-y. Vous allez voir, vous allez démultiplier la possibilité de développer les choses. Alors, développement socioculturel, c'est lié en fait à l'économie. C'est parce que les Autrichiens sont tout le temps au théâtre, à l'opéra, etc. Mais attendez, c'est qu'ils ont un niveau de vie très élevé. Donc c'est la même chose, il va falloir arriver à cela. Mais pour le faire, il nous faut la liberté, on l'a dit tout à l'heure avec Synergie, mais surtout, ce que je n'ai pas vu beaucoup, la notion de subsidiarité. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir déléguer à celui qui peut faire pour faire. Tu dis que tu peux, alors peux. Ah oui, c'est ça, hein, pour parler bien ivoirien. Oui, c'est ça, hein, mais... Mais c'est ça qu'on appelle la subsidiarité. Hein. C'est les mots, nous on aime les mots compliqués pour que vous ne compreniez rien. Mais si tu peux, tu peux. Alors peu. Bon, alors bien sûr, dans la culture, c'est très important parce que dans la culture, mais il y a des sources de revenus extraordinaires dedans. Il suffit qu'on sourit ou qu'on rit. Il suffit qu'on organise notre mémoire. Il suffit qu'on organise le tourisme, on aura augmenté de 3 à 4% même l'économie d'un pays. Surtout les pays comme le Togo, le Bénin ou l'esclavage, etc. On fait du bon. Qu'est-ce que fait le Ghana? Il a mis un passeport diaspora. Vous êtes noir américain, vous débarquez, vous dites que vous êtes diaspora, on vous donne le passeport. Sur le champ, vous investissez, on vous enlève la plupart des taxes. Les types, ils sont tous là-bas. Et comme les policiers sont en train de leur mettre des menottes, même quand ils sont professeurs de Harvard, les gars, ils descendent tous. Hein. Donc, il faut faire la même chose. Alors, continuons. Et j'en ai presque fini. Voilà. Alors, bien sûr, il faut arriver aux solutions. Alors, solutions, il y en a des myriades. Vous avez vu comment, en quelques instants, j'ai essayé de brosser rapidement. Mais vous ne pouvez pas le faire sans un concept que vous devez modifier. Et le concept, c'est le suivant. Vous devez d'abord chercher une indépendance économique et vous devez vous enlever de la tête la notion de dépendance. On est dans l'interdépendance. J'ai même fait un livre dessus dont vous verrez à la fin. J'ai mis des publicités un peu pour ceux qui sont intéressés. Il faut changer ça. Vous êtes dans l'interdépendance. On ne peut pas massacrer l'occidental tout le temps. On ne peut pas massacrer le chef d'État tout le temps. On doit comprendre en quoi je peux arriver à le modifier pour créer mon indépendance. C'est un peu plus subtil. Il y a 3 façons de faire développer une économie. C'est très important que vous compreniez bien ça. On finance l'économie soit par l'aide étrangère, assistance technique et autres, l'argent retourne chez les Occidentaux. Je ne vois aucun pays qui a pu développer sous cette forme-là. Il y a une autre façon de le faire, c'est essentiellement par les investissements étrangers directs, les entreprises, les transferts de l'argent de la diaspora, éventuellement les investissements en portefeuille, dans les actions, etc. Certains pays ont essayé, mais ce n'est pas toujours durable. C'est-à-dire qu'en fait, quand le marché change au niveau mondial, les types, ils foutent le camp, ils vont ailleurs. Pire même, ils délocalisent carrément. Donc on ne peut pas se baser sur ces deux-là pour développer le Togo, encore moins les pays de la sous-région. En fait, la réalité, c'est celle-ci. Il faut revenir à une économie qui puisse tourner de manière autosuffisante pour que le système fiscal endogène fonctionne normalement. Et pour le faire, votre gouvernement doit devenir comptable. Il doit devenir responsable devant le peuple. Et je reviens à mon mot de base, il faut la vérité des urnes. Donc vous voyez comment on retombe toujours sur nos pattes, quelle que soit la façon dont on tourne. Alors il faut institutionnaliser les liens entre la diaspora et le Togo. Et j'insiste beaucoup dessus, hein, les Maliens l'ont fait, il faut modifier nos propres comportements. Je donne un exemple ici. Est-ce qu'on peut dire, nous, diaspora, à l'ensemble des Togolais, de ne plus jamais rien jeter par terre, que ce soit au Togo ou à l'étranger, mais offrir des poubelles? J'ai des amis togolais de niveau doctorat qui viennent à Vienne, ils jettent par terre. Quand je lui dis, vous savez ce qu'il me répond? Je crée de l'emploi à ceux qui viennent ramasser la poubelle. Ah oui, j'ai dit, mais attends, c'est comme un concept qui ne tourne pas rond. Mais si tu pouvais ne pas créer cet emploi-là, qu'il fasse autre chose, avec ce temps, ce soit plus intelligent, c'est difficile à changer. Donc vous voyez comment les mentalités sont bloquées là-dessus. Alors, il y a beaucoup de la mauvaise foi aussi dessus. Hein. Mais derrière cela, il y a toute l'organisation du système de l'environnement, du ramassage des ordures, et bien sûr de son recyclage, parce qu'il y a de l'argent à faire là-dedans aussi. Les espaces publics, zones non-fumeurs, ça paraît paradoxal. Les pays de l'Est, qui sont juste de l'autre côté de l'Autriche, ils n'ont pas changé leur texte. Vous prenez un bus pour aller jusque dans les pays voisins, le bus, pendant 8 heures, les gars, ils vous fument dessus. Vous sortez, vous avez un cancer. Mais pensez au Togo. Le nombre de médecins ici qui pourraient faire autre chose que de passer son temps sur du cancer parce que c'est lié justement à la cigarette. Ce sont des choses simples qui peuvent permettre la diaspora d'imposer quelque chose à l'ensemble des partis, y compris au gouvernement, et qui est faisable, hein, et qui suppose une petite organisation. Alors là, c'est très important pour moi, défiscaliser l'envoi de contenu technologique. Chaque fois que vous allez envoyer un équipement au pays pour aider, pour modifier quoi que ce soit, pour créer une richesse supplémentaire, alors systématiquement, il faut que le gouvernement nous enlève des taxes. Le gouvernement cède lui-même parce qu'il permet de créer un emploi indirectement. Il cède lui-même parce que la personne qui a créé de la richesse va avoir des revenus, avec ce revenu va payer des impôts, donc finalement il fait le travail. Et il permet en même temps de créer de la productivité et de créer de la richesse en proximité. Parce que quand on nous a dit de quitter les produits vivriers pour le coton, ou le cacao d'ailleurs, mais c'est qu'on ne crée plus en proximité. Nous faisons pour le marché extérieur. L'argent est plus important au départ, mais quand le prix volatile à Chicago change, on s'en sort plus. Les Maliens ont maintenant un gros problème, ils ont fait le coton. Vous avez des arbres jaunes en pleine saison de pluie. Jaunes. Le sol, les nappes phréatiques sont complètement foutues. C'est du calcaire. Et donc du coup, ça part dans le fleuve. Et ce fleuve-là, les poissons capitales que vous connaissez dans le temps, ils n'existent plus. Donc vous voyez comment la chaîne alimentaire se met à fonctionner complètement à l'envers contre nous. Mais attendez, il y a des bouquins qui sont écrits aux États-Unis à la CIA pour dire que l'Afrique, sans les Africains, pour être précis, sans les Noirs. Et donc, pour être encore plus précis, l'Afrique aux Américains, ou en tout cas aux Occidentaux. N'oubliez pas, hein, soit ils colonisent, soit ils vous enlèvent. Et dans les deux cas, vous n'êtes plus là. Donc, il faut chercher comment faire. Alors, nous, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux parce qu'on ne peut pas avoir autant de compétences dans cette salle et même ailleurs, et ne pas avoir une banque de données des compétences de la diaspora. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui je sois malade, que je puisse m'envoyer un email à Mouzo, tiens, Mouzo, dis-moi, où est-ce qu'ils sont les Tougis togolais, en Autriche, en Espagne ou au Texas? On doit créer cette banque des compétences officiellement. Et bien sûr, il faut identifier les personnes ressources au service du Togolais et construire des groupes de conseils spécialisés. Parce qu'il y a une expertise très importante ici. Qui est le conseil, attendez, un bon conseil, ça fait éviter de perdre de l'argent, ça fait aller dans le bon sens, ça crée de la sagesse, j'en passe et des meilleurs. Et nous avons cette expertise-là. Pourquoi les Occidentaux, moi, me demandent de leur donner? Et je me dis, mais tiens, ça fait 3-4 ans que j'ai quitté les Nations Unies, je fais plus du conseil, mais je n'ai jamais conseillé un noir africain. Bon, vous dire que la vérité, ils ne payent pas. Non, mais il y en a qui payent maintenant. Le Ghana commence à réfléchir. Bon, et surtout, il faut que nous-mêmes nous disions à ceux qui nous veulent nous mettre dehors par la force que les migrations circulaires existent depuis des siècles, hein, c'est à 6000 ans avant Jésus-Christ, et doivent être négociées. Je l'ai fait dire aux gens de Sarkozy par hortefeu, il a compris, mais il n'a pas voulu accepter les mots, il a choisi concerter. Concerter en bon français, ça veut dire que vous parlez, je parle, mais on ne se comprend pas. Ah oui, c'est un dialogue de sourds. Ah oui, négocier, c'est autre chose. Et bien sûr, pour que tout ceci puisse s'institutionnaliser, j'ai mis un mot ici, au conseil de la diaspora togolaise, mettez le mot que vous voulez, appelez ça présidium du PD togolais, mettez ce que vous voulez, mais il faut exiger du gouvernement togolais qu'il doit mettre un budget à notre disposition. Après tout, nous sommes la 6e région, après tout, on a 230 millions qu'on envoie régulièrement, et après tout, ils ont besoin de nous, ne serait-ce que pour l'expertise. Et ce budget officiel doit bien sûr aller de pair avec des élections et qu'on peut voter dans une ambassade. Et ce n'est pas trop tard, comme a dit un ami tout à l'heure. Alors bien sûr, pour ces élections, ben, il va falloir seulement insister et le dire. Parce que ça faisait partie des accords de Ouaga et beaucoup d'entre nous l'avons oublié. Et pour que tout ceci fonctionne bien et qu'on soit sûr qu'il y ait des résultats, il va falloir refonder l'économie togolaise sur des principes, ce que j'appelle les nouvelles dynamiques de la solidarité, ou à défaut des relations constructives. Constructif parce que ça casse le débat Nord-Sud, ça casse le débat RPT-UFC, ça casse tout ce débat-là parce que quand il s'agit de mettre de l'eau ou de manger à disposition, écoutez, il faut dépasser ces clivages-là et aller un peu plus loin. Et elle est plus loin au niveau des entreprises. Il faut que nous, même si le blanc ne veut pas nous trouver du boulot, qu'on crée nos entreprises. Ce n'est pas impossible, les compétences sont quand même là, et ça peut se faire sous plusieurs formes. Au pire, aussi au niveau de le concept, la notion de solidarité, je voudrais que vous le fassiez évoluer, que vous parlez de solidarisme. Parce que c'est un terme technique peut-être, mais ça permet de bien comprendre. Solidarité peut se comprendre que moi le riche, je donne au pauvre et je le maintiens en esclavage. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est que je suis solidaire de l'autre en lui retrouvant, en lui redonnant sa dignité première, qu'il n'a pas eu pour un accident de parcours économique. Et c'est pour ça qu'on parle de solidarisme. Et ça ne peut se faire qu'au profit des solidarités et des populations.
Le premier cas, c'est la charité.
La charité, c'est bon, mais dans le sens des religieux, il faut faire très attention. Ça peut revenir souvent à la notion de dépendance. Et si on veut le faire vraiment sérieusement, il faut éviter qu'on se tape dessus. Donc vous voyez bien que quelques-uns ont sorti des instruments ce matin, et j'espère qu'on ne le fera pas. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci, camarade.